10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann.
Bonjour à toutes et à tous, très bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Nous sommes le lundi 16 octobre. Bonjour Gilles.
Bonjour Valérie.
Vous avez l'air tout...
Bah oui, mais j'ai même dans toute la station, on est à la radio du rugby.
Oui, donc vous êtes triste, vous y avez cru.
Bah oui, j'y ai cru.
Bah oui, vous avez regardé le match.
Mais j'ai regardé
audience
le match.
Audience énormissime.
Avec mon quota zéro.
Voilà, audience énormissime.
Alors 16 413, c'est la plus grande audience.
Meilleure audience de l'année pour TF1.
Exactement.
Voilà.
Ah bon,
et avec une pointe à 18 millions à 23h, enfin, au moment de, voilà. du coup final.
Combien part de marché, madame médiamétrie?
Je ne sais pas.
Ah,
56,
voyez.
Non, c'est ça?
Non, 62.
62, voilà. Bon. Mais en tout cas, un vrai carton. Et effectivement,
le match était beau. Hein.
Oui.
Le match était beau, vous ne pouvez pas dire autre chose.
Mais ce matin, ce qui est fascinant, c'est que déjà on remet en cause Fabien Galthié. Enfin,
c'est normal.
66 millions de sélectionneurs et d'entraîneurs. Voilà.
C'est très français.
On va recevoir dans un instant Philippe Geluck pour fêter les 40 ans du chat. Le chat, vous lui ressemblez un petit peu d'ailleurs.
Je suis content parce qu'il est gros, il a des petites oreilles. Ça fait plaisir.
Le chat, incroyable succès. Incroyable succès de cette bande dessinée, oui, de Geluck qui sera avec nous pour en parler. Vous vous souvenez de ces sculptures monumentales?
Je me sentais mince.
Voilà.
Voyez,
et puis ce musée qui va ouvrir. Bref, il sera avec nous et on va évidemment sourire avec le chat. On passe au zapping.
Sud Radio Média, l'instant zapping.
Eh oui Valérie, on en parlait, c'est presque passé à un point. La France a perdu sa Coupe du Monde. Et pendant longtemps, vous avez raison, on va refaire le match. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Puis évidemment, l'arbitrage qui est remis en cause par pas mal d'observateurs, y compris notre capitaine Antoine Dupont. Alors, est-ce qu'il y a eu des fautes d'arbitrage, mon cher Antoine?
Et vous en avez pensé quoi? En regard extérieur, je sais pas, il y a quand même des actions qui sont... Enfin, après, c'est dur d'avoir ce discours-là parce qu'il y a beaucoup de déceptions, de frustrations, mais il nous tarde, je pense, de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler, qui ne l'ont pas été. Je sais pas si le match il se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit en ruck, c'est quand même des choses faciles à siffler, mais encore une fois, j'ai pas envie de faire... De faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui.
C'est un peu ça quand même.
Un témoignage fort ce matin sur BFM TV, celui de Christian Berroyer. Alors Christian Berroyer, Valérie, c'est l'agent d'entretien au lycée Gambetta d'Arras, celui-là même dont on a vu sur les vidéos repousser l'assaillant avec une chaise. Il a témoigné ce matin.
J'ai vu l'assaillant qui était encore avec le prof. De là, j'ai pris une chaise, sans réfléchir. Je suis sorti et j'étais au contact de l'assaillant. Un peu pour le contenir.
Christian n'est pas seul. Il est immédiatement suivi par son supérieur.
Regardez, hop, là, et la scène de coup de couteau. C'est un peu mon chef, il n'était pas là, mais j'y passais. Parce que quand il s'est jeté sans mon chef, il l'a massacré. Il a mis des coups de couteau, il n'a pas cherché à comprendre. Honnêtement, il m'a sauvé la vie.
C'est incroyable d'ailleurs de voir les images presque en temps réel. Ouais. Je ne sais pas si ça vous surprend que les images ne soient pas stoppées avant ou les vidéos. Un jour, il faudra qu'on fasse un débat sur l'image et ce que peut diffuser une chaîne info ou pas. Samedi soir, dans quelle époque Léa Salamé recevait Philippe Lelouch? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Tout comme Arthur, il s'étonne du silence autour du massacre des kibboutz en Israël.
Évidemment. J'ai une peine humanitaire. Mais quel que soit le discours que vous pouvez tenir, quand on aborde ce genre de débat, je sais ce qui sera retenu, c'est de dire le sioniste Philippe Lelouch a encore défendu, machin, etc. Je le sais, déjà. Je suis venu dans la gueule du loup avec plaisir, parce que je veux parler de ça, mais je veux dire, réveillez-vous. Mais je parle aussi aux musulmans de France. J'ai envie que les musulmans... Moi, j'ai fait partie de cette génération. Touche pas à mon pote. Je l'ai porté. Et j'étais très fier de le porter. Ils sont où, mes potes? Ils sont où? Pourquoi vous n'êtes pas avec nous en ce moment? Parce que je sais que le Hamas vous nuit comme il nous nuit. Donc où vous êtes? Et c'est un appel aux Français. On a besoin, de temps en temps, on n'a rien contre une caresse de ses compatriotes, de temps en temps. Et cette caresse-là, on l'attend.
On peut parler de caresse, mais on peut parler aussi de gifle quand on voit le message de Benzema, de Karim Benzema.
C'est-à-dire qu'ils soutiennent la population de Gaza, c'est ça?
On soutient tous la population de Gaza. Mais il faut dénoncer les crimes aussi.
C'est l'absence de compassion pour les victimes en Israël.
Il a rejoint ses chères étoiles, Valérie. On a appris samedi la mort d'Hubert Reeves, vous savez, à l'âge de 96 ans, l'astrophysicien à la voix particulière, a toute sa vie été un grand vulgarisateur. Moi, je l'aimais beaucoup, Hubert Reeves.
Oui, moi aussi.
Nous sommes des poussières d'étoiles. Les étoiles sont les lieux où nos corps ont formé, où se sont formés les atomes qui allaient former notre corps. Donc quand vous regardez les étoiles, vous avez l'impression que c'est tellement loin. D'ailleurs, vous ne savez pas si c'est loin ou si c'est près. C'est là, ces petits points lumineux. Vous n'avez absolument pas l'idée que vous avez cette relation, que c'est là que se sont formés les atomes que vous touchez. Quand vous touchez votre corps. Ce que vous êtes vous-même a commencé là. Votre histoire commence avec des galaxies, des collisions d'étoiles, tous ces phénomènes.
Et oui, ouais. Valérie, quand vous me touchez, vous touchez une étoile.
Voilà.
Pour que vous en ayez conscience.
Une poussière d'étoile.
Donc voilà, non, mais il était formidable. Incroyable.
Formidable.
Nous, tous les deux, on est en train de flotter dans l'espace, on s'en rend pas compte. Non, mais c'est vrai.
Quelqu'un qui a vulgarisé de manière absolument incroyable la science. Je suis tombée sur une petite vidéo sur YouTube. Quelqu'un a posté sur X, Twitter, où il racontait son quartier de Montréal et en particulier le cimetière qu'il aimait bien. C'est très émouvant de revoir ça.
Voilà, un petit hommage à Hubert Reeves qui a été avec l'info, on en a presque pas parlé. Je voulais vraiment le mettre dans mon zapping. Et elle a enflammé London hier à 65 ans. En Madonna, que vous avez interviewé, Valérie, sur LCI, a lancé son célébration tour.
J'ai peur qu'elle ait lancé autre chose.
Non, c'est fini sa petite culotte.
Elle a lancé son tour, effectivement.
C'était incroyable, avec sa fille, elle était déchaînée sur scène.
Avec sa fille aussi.
Oui, il y a sa fille sur scène. Elle était sur son lit d'hôpital en juin quand même, elle est remontée. Elle sera donc le 12, 13, 19, 20 novembre à l'Accor Arena de Paris, mais vraiment c'était hier à Londres, c'était incroyable. Du concert, hein. C'est l'ouverture du concert.
Mais
vous
croyez qu'elle chante vraiment?
Oh, je pense que oui, parce que les Anglais, ils sont habitués au live, au direct, aux musiciens. Pas tant que ça.
Non.
Et c'est des vrais chanteurs.
Je crois que les places, c'est sold out, comme on dit.
Ah oui, les places, c'est sold out. Peut-être que vous, avec l'entre-jean que vous avez, qui peut peut-être m'avoir quelques places.
Qui sait.
Mais c'est un gros show. Je pense que c'est sa vraie dernière tournée.
Moi, je l'avais vu quand, la dernière fois qu'elle est venue. Ça m'avait un peu ennuyé, son spectacle, pour tout vous dire.
Ah, vous l'aviez vu où? Plutôt.
À Bercy. C'était voilà.
Mais vous aviez vu qu'elle chantait en live quand même.
Oui.
Rappelez-vous quand il y a sa robe, quand on la tire par sa robe et qu'elle tombe, on entend qu'elle chante plus, qu'elle a plus de micro. Je ne sais plus à quelle cérémonie où elle était tombée, mamie.
Dans un instant, nous serons avec le papa du chat, Philippe Geluck, pour célébrer et souffler ses 40 bougies avec ce 24e album qui est publié chez Casterman. À tout de suite.
Sud Radio Média, l'invité du jour.
Et l'invité du jour aujourd'hui, c'est Philippe Geluck, le papa du chat, le père du chat, 40 ans, le chat et les 40 bougies. Tadam, il sort du gâteau pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonjour Philippe Geluck.
Bonjour
Valérie.
Vous ne
faites pas votre âge.
Merci.
Vous êtes grand-père.
Je suis grand-père dans la vie et ce chat a eu des enfants déjà.
Oui.
Donc je suis grand-père
d'un
personnage de fiction aussi.
40 ans de chat. Qui aurait dit ça?
Non, c'est déjà.
À chaque fois, j'imagine, qu'on vous pose la question, le premier chat, vous imaginiez qu'il vous emmènerait aussi loin?
Bah non, évidemment.
Bah oui.
Évidemment. Et l'avant-premier chat était sur un carton de mariage.
Ouais.
Je voulais apporter. Regardez, c'est donc
alors,
pour annoncer notre mariage à Denis et moi, j'envoyais ce carton. Donc on voit une madame chat qui est très souriante, et puis vous ouvrez le carton. Et on voit le mari qui lui offre
occupé,
ses hommages. Voilà.
Occupé, c'est très rigolo.
Et qui porte
ça.
Des lunettes rondes, comme j'en ferai porter au chat 3 ans plus tard. Donc,
c'est un peu vous le chat.
Ben oui. au départ, forcément. C'est moi, mais une fois que je lui ai mis un manteau, une cravate, qui s'est mis debout, c'était lui, c'était plus moi. Mais c'est un petit peu mon double, en volume déjà, et puis mentalement. J'arrive à l'utiliser pour dire des choses que j'oserais pas toujours dire moi-même.
Oui, oui.
Et il n'a pas de prénom, pas de nom.
Il s'appelle Le. Ça, c'est son prénom. Et Chat, c'est le nom de famille.
Mais alors, des fois, vous n'avez pas pensé à le nommer ou à...
Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais des journaux l'ont fait, parfois sans m'en avertir. Sud-Ouest, qui a été le premier journal français à reproduire des dessins que je faisais pour la Belgique, ils ont passé une petite bande quotidienne qu'ils ont intitulée Sacha. S-A-C-H-A-T. C'est rigolo, ils l'ont dessiné, ils ne m'ont même pas prévenu. Les Allemands, quand ils ont fait la traduction, ils ne m'ont pas prévenu non plus, ils ont appelé le personnage Socrates. Ce qui est pas mal, Socrate. Mais on ne demande jamais l'avis de l'auteur.
Incroyable. Le Chat est dans combien de pays ?
Il est traduit dans une quinzaine de langues. L'anglais, l'italien...
Alors comment vous vérifiez l'humour ?
Alors,
Parce que ça doit être super compliqué.
Le néerlandais, je le parle. L'anglais... Je le parle et je le comprends, l'italien aussi. Donc là, je peux donner un avis autorisé.
Et c'est traduisible ?
Ah oui, c'est juste magnifique. Quand il s'agit de jeux sur les mots, très français, ça c'est impossible. Mais comme je ne raconte pas une histoire en continu, je retire le dessin qui ne convient pas, pouf, j'en mets un autre. Et les traductions sont très savoureuses. Et en fait, j'ai des lecteurs anglais, indiens, d'Inde ou américains qui me disent qu'ils se roulent par terre en lisant Les Aventures du Chat. Alors, en finnois, en arabe, en chinois ou en grec ou en arabe, là, je n'ai pas vraiment la main sur la traduction.
Là, c'est intraduit. Juste là, celle-ci, elle est intraduisible. Mourir de faim, c'est vraiment à la fin que c'est grave, parce qu'au début, on a juste faim, c'est tout.
Non, c'est traduisible. Oui, parce que là, je ne joue pas sur le mot faim, à la fin,
fin.
Mais dire que voilà, au début, c'est comme un type qui commence une grève de la faim, mais le premier jour, ça va. Il a juste l'impression de ne pas avoir mangé, c'est au 30e jour que ça devient pire.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des expressions ou des dessins inédits dans ces autres pays que vous avez fait que pour ces pays-là?
Ah, c'est drôle, oui, pour l'Italie, j'ai fait quelques dessins sur Dante, dont on célébrait le X centième anniversaire. Et évidemment, c'est des choses qu'on comprendrait moins ici, parce que Dante est une légende en Italie. Et j'ai fait Dante qui rencontre le chat et qui se dit des choses...
Incroyable.
Et alors, 40 ans de chat, 40 albums dans la...
Non, 24 albums.
24 albums, mais il est né effectivement il y a 40 ans, mais 24 albums, ça implique beaucoup d'imagination, beaucoup de... Oui, comment vous les trouvez, ces blagues?
Je les trouve pas, je les ramasse, elles me passent par la tête,
Vous les notez?
Oui, bien sûr. Ouais. J'ai pris cette habitude parce qu'il m'est arrivé. Une anecdote, il y a un dessin dont on parle beaucoup, c'est le chat qui est devant un plan de ville, qui indique « vous êtes ici », et le chat dit « les nouvelles vont vite ». Et donc j'avais eu cette idée quand j'étais au ski en famille, on passe sur un plan de piste en haut de plusieurs départs de piste avec un panneau, vous êtes ici, et ça me trottentait, j'ai dit mais comment le savent-ils,
comment le savent-ils,
et j'oublie cette idée, je ne la note pas et elle me sort de l'esprit, et pendant toute une semaine j'ai essayé de la retrouver, je ne l'ai jamais retrouvée. Le dernier jour, on refait un tour des pistes avec les enfants, je repasse devant le panneau et là je l'ai écrite.
Alors moi j'ai voulu commencer à noter, à me dire tiens je vais parler de ce dessin.
Pourquoi vous l'avez dessiné? Ah non, vous me dites j'ai commencé à noter.
À marquer des dessins dont je voulais parler. En fait, on veut parler de tout.
Ils sont tous bien, c'est ça que vous voulez dire. Oh, c'est gentil.
Non mais c'est sincère, c'est un éclat de rire à chaque fois, c'est des petites pastilles, c'est des petites BD en trois cases parfois. Moi ce que j'aime c'est l'absurde.
Il y en a vraiment
beaucoup qui sont sur l'absurdité, sur des où vous avez un quart de seconde où vous essayez de comprendre puis vous dites non, il y a rien à comprendre.
Ou alors on relit et on se dit ah ben oui, il y avait ça. Et ça me fait plaisir parce que vous n'avez pas stabiloté l'album.
Ce qu'on fait
souvent avec des livres d'écrivains, on dit tiens, tel passage.
Non, là j'avais commencé à mettre des post-it puis je me suis dit non, c'est moche, il va y en avoir trop. Pourquoi il est gros le chat? Parce qu'il est rigolo, parce qu'il est...
Alors, est-ce que les gros sont plus rigolos que les autres? C'est une vraie question, je ne sais pas. Non, il s'est arrondi avec le temps. Au départ, il était un peu... petit peu plus mince. Et puis, j'ai trouvé que ça lui allait mieux, de lui donner des formes. Il a un côté réconfortant. Il a un côté bon pépère, comme ça, qui est traditionnel dans le dessin ou dans la marionnette ou dans les personnages de la Commedia dell'arte.
Et alors, dans une dégustation à l'aveugle, le plus dur, c'est de trouver le tire-bouchon.
Oui. Il faut pas être con non plus.
Il y a des choses, comme ça. Vous dites, oui, c'est
vrai.
C'est
si
bien
on
vu.
Oui, les gens qui veulent faire une dégustation, on connaît les dégustations de vin à l'aveugle. Le tout, c'est d'ouvrir la bouteille avant de se mettre le bandeau sur les yeux.
Il y a pas mal de dessins autour des femmes voilées.
Oui. Plutôt de la burqa.
La burqa, elle est entièrement voilée. Là, c'est un trapéziste qui doit rattraper la femme qui est en burqa, mais elle a les mains coincées.
Sous la burqa,
elle n'y arrive pas.
Et il va se péter la gueule. Ouais. Ce que je lui souhaite à ce sale con.
Voilà. Bon, et il y a.
Puisqu'on parle de ça et de la politique, vous allez aller à Caen où vous avez fait une sculpture exprès en hommage aux différents attentats de Charlie Hebdo. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, bien sûr. Alors, vous savez, la grande exposition des sculptures monumentales que j'ai initiée sur les Champs-Élysées en 2021, a voyagé ensuite
magnifique.
À Bordeaux, à Caen, à Genève, Monaco, Montreux et maintenant Bruxelles. Et parmi ces 20 sculptures, il y en avait une qui s'appelle le Martyr du chat et qui représente le chat en martyr de Saint-Sébastien. Il est transpercé, non pas de flèches, mais des crayons de couleur. Et cela symbolisait l'horreur des attentats et des assassinats de mes confrères, ces immenses dessinateurs qui ont été ignoblement massacrés.
Kiep, Bouchard, Wolinski, ils sont encore
appelés
leur nom.
Et que je ne peux pas évoquer sans avoir les larmes qui me viennent. À Caen, nous avions décidé, en collaboration avec le mémorial, de présenter cette sculpture devant le mémorial de Caen. Et à l'inauguration, j'ai été bouleversé parce que dans le fond, je voyais les drapeaux de tous les pays qui ont donné leurs gamins pour venir libérer l'Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce lieu de mémoire est absolument prodigieux et je suis très fier que la ville de Caen ait acquis cette sculpture pour la mettre définitivement devant le mémorial.
Et elle va rester là pour toujours.
Ouais.
Les statues ont été vendues, ces sculptures que vous aviez faites sur les Champs-Élysées monumentales, elles ont toutes été vendues ou pas ?
Alors pas toutes, mais il y en a 26 qui ont déjà été vendues et l'intégralité du bénéfice va servir à financer le futur musée du chat et du dessin d'humour que nous allons inaugurer à Bruxelles en 2026.
Alors vous en êtes où, Witt ?
Ça avance. C'est long, c'est compliqué, mais c'est à Bruxelles, donc c'est normal. Le bâtiment va commencer à être construit, c'est un bâtiment construit par la région de Bruxelles-Capitale. Moi, je serai locataire et je dois apporter tout le financement pour le musée. D'où la vente des sculptures.
Vous avez été blessé des critiques qu'il y a eu un peu à Bruxelles sur ce monument qui était fait. Il y a eu un moment, pas mal de critiques ont été faites.
C'est-à-dire qu'il y a quelques artistes en souffrance après la crise du Covid qui n'ont pas compris très bien le principe. Donc ils ont fait une espèce de lettre ouverte dans laquelle ils ont avancé des arguments qui étaient totalement faux, disant que je prenais la place d'un musée d'art moderne car il n'y a pas de musée d'art moderne à Bruxelles. Or, ce bâtiment ne conviendrait pas du tout. Je ne rentre pas dans les détails. C'était un peu insupportable, mais c'est passé. Et ce qui est formidable, c'est que cette mauvaise humeur de certains a provoqué, parce qu'ils m'ont un peu insulté.
Oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
Et notamment sur un plateau de télé, et cela a indigné.
Moi, je vous ai vu dans les images, je vous ai vu très touché par ça.
Ouais.
Et de ne pas comprendre, alors que vous étiez artiste et vous ne prenez pas la place d'autres artistes.
Voilà, et ça a suscité quoi alors comme réaction ?
Et alors les réactions, il y a des gens qui ont été indignés par ces attaques qui étaient totalement injustes et qui se sont décidés à acheter une sculpture monumentale, dont une ville, le Parlement de la région de Bruxelles et un collectionneur privé. Et donc un jour j'ai dit en télé, mais c'est formidable parce que mes détracteurs ont provoqué du budget pour le futur musée du chat, donc merci, continuez à m'emmerder, c'est bénéfique.
Comme quoi, c'est effectivement, tant mieux pour vous et tant mieux pour ce musée. Il va y avoir, donc c'est le musée du chat, mais il y aura des expositions de ces dessins de presse aussi.
Parce qu'on est
une émission média, donc on vous a invité parce qu'on vous aime beaucoup de toute façon, et qu'on vous invite à chaque fois qu'il y a un album qui sort, donc ça fait peut-être pas 24 ans qu'on vous invite, mais peut-être pas loin. Et
vous
êtes dessinateur de presse.
Mais bien sûr, et donc donc il y aura une large, de larges espaces réservés dans ce musée aux grands dessinateurs. Ouais. Chaval, Sempé, Ciné, ouais. Bosque, Tetsu, des internationaux. Il y a de la programmation pour des années et des années. Et il y aura aussi une section réservée au chat, l'animal, dans la culture humaine, donc depuis l'Égypte ancienne avec le culte de Bastet jusqu'à l'affiche publicitaire du 19e siècle. Mmh. Ça, la carte postale,
oui, oui,
les trucs,
tout,
ça va être passionnant.
Lien,
et ça, ça changera plusieurs fois. C'est-à-dire, oui. Ça sera des expositions, la troisième partie, des expositions qui changeront. Il y aura l'Égypte, puis après la pub, après...
Exactement. Avec, oui, tous les six mois, il y aura... En fait, un nouveau musée, un nouvel accrochage de mon travail aussi.
Ce qui fait que ça sera un musée vivant.
Ben, j'espère.
C'est ça l'idée.
J'espère.
C'est qu'on n'y va pas une fois, on y va, puis on revient plusieurs fois.
J'espère rendre les visiteurs totalement dépendants de ce musée. Ils voudront y revenir, ils voudront leur dose.
Ils vont prendre un pass à l'année. On revient, on vous retrouve dans un instant. On va marquer une petite pause, Philippe Geluck, Le chat et les 40 bougies. Vous êtes l'égal d'Hergé, c'est cela ? Vous
non,
en êtes très fier.
Je suis un nain à côté de ce géant, mais en nombre d'albums, Le chat égale ceux de Tintin.
Absolument. À tout de suite.
Sud Radio, le supplément média.
Le supplément média avec toujours Philippe Geluck, notre invité. Le chat et les 40 bougies, c'est chez Casterman. C'est votre 24e album, Philippe Geluck. 40 ans pour ce petit chat qui a démarré sur un faire-part de mariage. Très bonne idée pour ceux qui vont se marier. Je ne suis pas sûre que ça fasse rire tout le monde. Et donc cet album, je me disais, celle-ci, elle est bien. Non, celle-là, elle est mieux. Puis celle-là, puis voilà. Et il y en a qui sont très, très visuels. Puis il y a toujours ces petites images... d'époque, vous aimez bien commenter.
Oui, voilà, je scanne dans des vieux journaux, dans des dictionnaires ou encyclopédies du siècle, pas dernier, mais celui d'avant encore, des gravures que je complète. Je fais parler les personnages, etc. Et je me dis, c'est des artistes incroyables qui ont fait ça, on connaît absolument pas leur nom, mais moi je suis un peu... un prince charmant qui va réveiller des belles au bois dormant enfouies dans des vieux dictionnaires. Ouais. Je leur redonne la vie.
Vous leur redonnez la vie. Il y a une femme qui a une tête penchée dans une bassine. On se demande bien pourquoi. Et vous dites vivement l'invention de la cuillère à soupe. Mais donc revenons sur le dessin de presse. Vous avez commencé par le dessin de presse. C'est ça ?
Oui. Dans le journal.
Dans le journal.
Une fois par semaine, dans un supplément hebdomadaire. Mais il y avait déjà un dessinateur d'actualité dans ce journal. Il s'appelait Royer, il était brillant, maintenant c'est Kroll. Et donc, je n'ai évidemment pas eu le même terrain de chasse qu'eux, c'est-à-dire l'actualité au jour le jour, l'actualité politique, nationale, internationale. Et donc, moi, je me suis un peu spécialisé dans des dessins intemporels, sur des sujets pérennes. Bien m'en a pris, puisque ces dessins peuvent se retrouver plusieurs années plus tard dans des albums et on les comprend toujours.
Ouais,
tandis que si j'avais traité de l'actualité politique, j'aurais fait des dessins sur Bérégovoy, sur machin. Les jeunes, aujourd'hui, j'ai des lecteurs qui ont 12 ans, et ils ne savent pas qui est Bérégovoy. Ouais. Or, les conneries du chat... Ça les fait toujours rire.
Avec l'actualité internationale, évidemment, on fait le lien entre le chat et le chat d'Iran. Et il y avait eu une histoire incroyable qui vous était arrivée sur Vivement Dimanche.
Alors, on avait reçu la Chabanou, Faradiba, qui publiait ses mémoires chez Michel Drucker. Et traditionnellement, j'offrais un dessin en fin d'émission à l'invité que je faisais
sur sa vie, son
actualité, etc. Et le dessin que je lui avais fait... représentait le chat qui portait des valises et le chat disait « Dans certains pays, quand le chat est parti, les souris ne dansent pas, car la musique est interdite. »
Magnifique.
Et ça avait fait un « Oh !» sur le plateau. Et elle avait été très touchée par le dessin. Je l'ai rencontrée quelques années plus tard lors d'une exposition Magritte au Centre Beaubourg. Elle est venue vers moi, elle m'a fait la bise et elle m'a dit les impératrices me font la bise.
C'est
la seule que je connaisse. Hein. Si, je ne l'ai jamais rencontrée, mais là, c'est une vraie impératrice.
Elle
m'a dit « Votre dessin trône dans mon salon, je le regarde tous les jours et je le montre à tous ceux qui me rendent visite. »
Ouais,
c'est juste
mais sous la gaudriole ou sous les bêtises parfois qu'il peut y avoir dans les dessins, il y a aussi de la philosophie. Je pense à celui-ci qui fait un peu réfléchir. Les enfants battus deviennent parfois eux-mêmes des parents violents. Les enfants assassinés ne deviennent jamais des assassins. Bon, ben nous n'irons pas plus loin sur le sujet. Ça fait sourire. Mais voilà, y a, vous dites des choses sur... ça dit une chose.
Bien sûr, bien sûr.
Il est très philosophe, ce chat, quand même.
Et il se positionne toujours du côté des victimes.
Oui.
C'est-à-dire que c'est une façon de dénoncer la violence faite aux enfants. Mmh. Dans d'autres dessins, je dénonce les violences faites aux femmes. Évidemment, il n'est jamais, même s'il l'utilise parfois ou s'il fait une blague de mauvais goût, on sait de quel côté il se trouve. J'ai fait un dessin que j'ai oublié de mettre dans l'album et que j'aime beaucoup, c'est le chat qui est, je le mettrai dans le prochain, c'est le chat qui est devant un gamin qui se trouve en fauteuil roulant.
Oui.
Et il lui dit « Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ?» Et le gamin lui répond « Du stand-up. » Bon, et je trouve que c'est le gamin qui est fort dans cette histoire, parce que c'est lui qui a le trait d'esprit.
Mais justement, quand vous faites, là vous venez de nous partager un dessin, quand vous faites un dessin, il n'y a pas une certaine impatience de le diffuser, de le partager, attendre 3 mois ou 4 mois le temps qu'un album sort, ça doit vous énerver, non ?
Là j'ai attendu 3 ans.
À 3 ans ?
Alors oui, alors comme je suis un peu réseaux sociaux, mais pas trop... J'en mets de temps en temps.
Oui, mais il faut garder les
mais
inédits.
Mais je balance pas. Évidemment, c'est ça qui est. Cet album est truffé de dessins totalement inédits.
Totalement inédits. Ouais.
Parce que pour les 23 autres, ou en tout cas les 20 premiers, je reprenais des dessins que j'avais publiés dans Le Soir, dans VSD, dans L'Illustré en Suisse, et pour en faire une compilation.
Alors là, c'est totalement.
Ouais,
inédit.
C'est du nouveau.
Donc moi, ça va être dur d'attendre.
J'adore celui-ci. C'est le chat qui a une conversation. Et en fait, il y a des petites bulles qui disent ce qu'il pense en réalité. Bonjour, Roger. J'espère que tu vas bien. Si tu savais comme je m'en bats les couilles. Tu es allé chez le coiffeur, tu es tout beau. On dirait un vrai balai à chiottes. Et vous, toujours dans le dessin d'humour. Je ne sais pas. Alors l'autre, lui, et l'autre pense, je ne sais pas comment ça fait. Comment ça continue à marcher, ces bouquins avec des blagues aussi nasses. C'est ce qu'on a tous en arrière-pensée. Au revoir, Roger. Au revoir, cher ami. Pas fâché de plus voir sa bête gueule pendant 24 heures. Voilà. C'est l'hypocrisie des rapports humains.
Et en même temps, il aime tellement le muscadet, le chat, qu'il ne peut pas s'empêcher d'aller au bar et de boire des coups chez Roger.
Voilà.
Mais on a tout ça. Et ça, c'est, évidemment, ça me plaît.
Ça, c'est formidable. Comme
vous me dites et quand on me dit, tiens, on a l'impression d'avoir déjà vécu cette situation.
Absolument.
Et puis le chat ose en parler. Et
est-ce que des fois, vous avez envie d'aller sur des sujets d'actualité? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le chat se demande s'il est non-genré, s'il... Il a envie d'avoir une transidentité, penser à des choses comme ça.
J'aborde, je ne sais plus dans quel dessin, j'aborde ces problématiques-là. Et évidemment, ça, parce qu'on se demande toutes, les gens me demandent, tiens, est-ce que le chat, c'est un mâle, une femelle, etc.
Ah oui, je ne me suis jamais posé la question, dis donc. Il est non-genré.
Non, vous l'avez...
Si.
Peut-être, regardez certains albums, on le voit entièrement nu. Ah. Et la question est
répondue. Il est bien membré. Oh,
il est plutôt costard-cravate quand même. Il a sa petite cravate et son petit
veston.
Mais il n'a pas vieilli en 40 ans.
Mais
il veut le vieillir.
Et alors la question qu'on pose toujours aux dessinateurs, vous avez des limites. Là, je vois, il y en a un qui n'est absolument pas dans l'époque. Le chat dit à une jeune femme assise à un bar, vous avez de très belles fesses. Et elle répond, votre compliment me va droit au cul. Et ça...
Mais alors on se dit, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas?
Alors, vous êtes posé la question ou pas?
Je me dis, évidemment je peux.
Bah oui.
Parce que, comme avec l'histoire du gamin en fauteuil roulant, c'est la fille qui est drôle dans l'histoire et qui lui refoue son compliment sur la gueule.
Finalement, avec le dessin, on peut plus se permettre de choses que dans la vie réelle, finalement.
Ah bah
parce
oui,
que c'est de la caricature.
Évidemment, et d'autant plus quand c'est un chat, parce que c'est un animal, et qu'il est sympathique, et... La Fontaine utilisait aussi dans ses fables des animaux pour pouvoir faire passer des choses et des critiques sur la vie réelle.
Ouais, et vous avez un chat?
Alors, j'en ai eu beaucoup dans ma vie.
Aujourd'hui, vous avez un chien.
Aujourd'hui, j'en ai pas. Celui-là m'occupe pas mal.
Beaucoup.
Mais ce qui est formidable avec celui-là, c'est que si on l'adopte, il n'y a pas de problème d'allergie, il ne perd pas ses poils, et voilà, il ne vous réveille pas la nuit.
Il vous agace ou pas? Parce que de temps en temps, quand, la quatrième de couverture est très drôle, c'est le chat qui dit « Le chat, le retour du chat, le quatrième chat, et vous, Chava ?» Et vous dites « Mais pourquoi l'avoir fait aussi bavard ?» Il vous occupe votre vie entière, ce chat?
Non, heureusement, ma vie à moi, si vous venez à la maison, ce que j'espère, vous ferez un jour, quand vous venez avec nous inaugurer le musée du chat.
Je viendrai avec plaisir.
Voilà.
Ouais.
Chez moi, il n'y a aucune image qui fait référence à mon métier. Et c'est des photos de mes petits-enfants, de nous, enfin c'est des tableaux d'autres.
On ne vous offre pas plein de chats?
Non, non, non. Mes amis savent. Ils savent
non, mais des gens qui vous aiment, ils vous envoient pas des chats.
Alors, les gens qui m'aiment, voudrais leur demander d'arrêter. Ils m'envoient des dessins pourris avec des idées à la con. Et ils m'envoient des jeux de mots. Alors, chat va, chat alors, etc. Évidemment, j'ai déjà tout entendu. Ouais. Non, le chat m'occupe dans ma vie professionnelle et pas entièrement, puisque, enfin, aujourd'hui, je me partage entre le dessin, la peinture et la sculpture. Mais avant cela, j'ai fait beaucoup de radio, de télé, de scène, etc. Donc, je me suis diverti dans des tas de métiers et le retour au chat était toujours un plaisir et je retrouvais toujours un ami avec qui j'avais envie de passer
Mais
c'est
pas une obsession, ce que je veux dire, de trouver la vanne, de vous dire, voilà, il faut que j'arrive à trouver pour faire un album. Enfin, là, vous avez mis 3 ans pour le faire, mais ça vient comme ça, en fait. C'est où vous asseyez à une table et vous regardez droit devant vous et vous vous dites bon.
Oui, non, c'est les deux. Parfois, les deux. Ça vient comme ça, je note au vol. Et sinon, tous les matins, à 9h, je me mets à ma table à dessin, bien sûr, devant une feuille blanche. Et elle ne le reste jamais très longtemps. L'idée vient très vite. Ouais. Et si elle ne vient pas tout de suite, je dessine le chat simplement.
Et ça vient.
Et forcément, je le vois, je me marre et j'ai l'impression qu'il va me dire une connerie. Et ça ne rate pas.
Il est là. Quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi ?
Premier métier, je voulais être clown.
Oui.
C'est un peu ça que j'ai fait. Puis j'ai voulu être archéologue. Et là, je me suis fait offrir à Noël, aux anniversaires, des livres sur l'archéologie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis allé dire là ? Et puis finalement, j'ai décidé d'être comédien.
D'accord.
Mais mon rêve était de vivre de mon dessin. Donc.
Oui, puis vous avez présenté des émissions pour enfants, vous avez fait plein
non,
de
mais
choses
petit, enfin, je veux dire, jeune, quand on a 15-16 ans, qu'on se cherche, il y avait quand même le dessin qui était
là.
Ça vient très tôt, le trait, l'envie de.
Dès 10 ans, j'ai commencé à faire des dessins d'humour. Ouais. Et à 16 ans ou 17 ans, j'ai publié mon premier dessin de façon rémunérée. C'est-à-dire qu'il y a une revue improbable qui m'avait commandé, qui type avait vu quelques dessins, il m'a dit fais-en sur un article. Et j'ai fait ça. Alors c'était maladroit, c'était un truc normal à cet âge-là, mais on m'avait payé. Et j'ai fait le calcul récemment, je crois que j'ai gagné pour 5 dessins publiés l'équivalent de 12,50 euros à l'époque, ce qui était une fortune.
Vous allez arbitrer un débat que j'ai eu avec Valérie Expert la semaine dernière. On est d'accord que tout le monde ne peut pas être artiste, même en travaillant. Il y a une partie. De choses qu'on n'explique pas quand on est peintre, quand on est dessinateur.
Ah mais je pense que fondamentalement, le principe...
C'est avec Jérémy Combe, je vous vois
réfléchir. Non, je suis un artiste. C'est pas ça, c'est qu'il y a un petit livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait
« Comment devenir
artiste ». Et ce sont des conseils, mais il y a du travail derrière l'artiste. C'est là-dessus où ça vient, c'est pas... Il y a du boulot.
Et il y a des gens qui disent « Nous sommes tous artistes ». Je ne le crois pas. Je pense que nous avons la chance ou la malchance et qu'il y a des gens touchés par la grâce. Certains ont l'oreille absolue, dont d'autres reçoivent le sens de l'humour et Picasso, quand on voit ce qu'il a peint, il peignait comme Velázquez quand il avait 8 ans et il a dit j'ai mis 70 ans à arriver à peindre comme un enfant. Donc je pense que nous ne sommes pas égaux devant ce quoi. Le dessin est une faculté qui permet de transmettre par les yeux, le cerveau et la main une chose que l'on a vue et de la reproduire. Tout le monde n'en est pas capable et ça ne s'apprend pas. C'est bizarre, c'est injuste, mais c'est comme ça.
Il y a pas mal de produits dérivés du chat.
Pas énormément, mais il y en a quelques-uns.
Il y en a que vous avez refusés.
Oui.
Le plus absurde.
Les cigarettes, ça j'ai dit
non.
Ah
non, ça c'est pas possible.
Non, j'aurais
mais
pas
les
voulu.
Joints, oui.
Attendez, oui, il y a
préservatif,
beaucoup de choses.
Préservatif, non.
Si, il y en a un très drôle.
Préservatif, on a fait. Parce qu'à l'époque, il était le préservatif le moins cher du marché. Et de mettre le chat sur la boîte du préservatif avait un côté bonhomme qui, vous savez, les jeunes, les adolescents ont parfois un petit peu de pudeur à aller sur ces. Et là, avec le chat, ça devenait un petit peu une blague. Et il y en avait, j'avais dessiné sur une boîte, et je dis, si tu n'arrives pas à pécho ce soir, j'espère qu'au moins la blague sur le préservatif te fera rigoler.
D'accord, donc il y a des produits dérivés. J'avais eu des gaufrettes, moi, une fois, ou des petits chocolats.
Et en règle générale, j'ai toujours refusé ce qui était fabriqué en Extrême-Orient, non ouais. pas par...
Oui, oui, non, mais du Made in Belgique ou Made in France.
Voilà, et en tout cas Europe, parce que je suis révolté par le ouais. plastique jetable, par le transport inutile, parce qu'on gagne 3 centimes de plus, on va aller faire ça à l'autre bout de la planète, non. Et donc ça, j'ai toujours dit non, mais des belles choses faites ici par des gens qui travaillent bien, et c'est une manière de procurer de créer des emplois aussi.
D'autres sculptures monumentales à venir ou pas ?
Ah oui, oui, oui. À Bruxelles, il y en avait même 2 de plus qu'à Paris, et je continue, j'en prépare plusieurs nouvelles.
Et toujours monumentales, non, vous n'avez pas... Oui, non, c'était non, ma non. question.
Je reposais, si vous voulez.
Je les crée à une taille qui est la taille originale, 50 cm de haut, en gros, et... C'était pour l'exposition sur les champs et ailleurs que nous avons fait la version monumentale. Mais sinon, je ne vais pas continuer à ce truc-là. Parce que si on les vend, c'est très bien. Mais si je dois les mettre dans mon jardin, ça va faire un peu trop.
Le chat et les 40 bougies, Casterman, c'est drôlissime. C'est,
Merci.
Non, non, mais vraiment, c'est un éclat de rire, c'est un moment de bonheur. Moi, j'aime bien le Christ sur la croix qui lâche les mains et paf, t'as vu ça ? Ouais, c'est un miracle de plus. Il lâche les mains et il arrive à taper dans ses mains. Donc, il y en a pour tout le monde en prend et c'est des éclats de rire et ça fait du bien, effectivement, de retomber sur ces dessins, sur ces petites bulles qui nous font beaucoup rire depuis 40 ans.
Merci. Et il y a, petit cadeau au lecteur, 64 pages au lieu de 48 habituelles. Oh. Donc c'est un album dense. Voilà.
J'adore. Et... Le dernier aussi.
Car bon, oui, non,
on arrête. Voilà, on arrête. Il faut que vous alliez l'acheter, comme ça, vous allez rire autant que nous. Merci Philippe Geluck d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve dans un instant pour les débats.
Merci à tous les deux.